Salut, c'est Laurent Marchand, bienvenue dans le cinquième chapitre du programme Les 7 clés radicales pour changer de personnalité. Je suis vraiment très heureux de te retrouver aujourd'hui dans ce programme et dans ce cinquième chapitre qui va correspondre bien évidemment à une cinquième clé. Vraiment bravo, merci de suivre ce programme, c'est vraiment une joie, un bonheur de faire ce chemin avec toi parce que je sais à quel point ces informations vont pouvoir changer radicalement les choses dans ta vie et notamment la clé d'aujourd'hui, il me tardait d'y être parce que c'est vraiment quelque chose de super important. Avant de te parler de la clé d'aujourd'hui, je vais revenir sur les chapitres précédents comme je le fais d'habitude, simplement pour que tu te rendes compte que tout ça est un processus simple, c'est un processus basé sur le bon sens. Et ce processus basé sur le bon sens, eh ben, plus il est simple et plus il est plein de bon sens, et plus il sera efficace dans ta vie et il perdurera, quoi, ok ? Dans le premier chapitre, on s'est posé la question « Pourquoi voulons-nous changer ?» Il est absolument capital de se poser cette question-là. Pourquoi ? Parce que sinon, on construit sur des sables mouvants. Parce qu'on ne sait pas véritablement pourquoi on voulait changer les choses. Tout le monde veut changer. Tout le monde veut changer, même parfois de façon totalement absurde. J'ai entendu un nombre de fois considérable, je l'ai même dit moi-même, des gens dire « je veux changer de vie ». On ne change pas de vie. Il n'y a pas de magasin où on peut troquer son ancienne vie contre une nouvelle vie. C'est-à-dire que même si on change radicalement les choses dans sa vie, on sera toujours la personne qui a vécu les choses du passé. Donc c'est toujours la même vie. Mais en revanche, on peut considérer qu'à partir de maintenant, notre vie va prendre un virage, qui est un virage radical ou pas, mais un virage qui va nous emmener vers autre chose. Donc la raison pour laquelle on va changer, c'est en gros deux possibilités. Soit je rejette ce que je vis aujourd'hui parce que ça ne me convient pas. Les gens ne me conviennent pas. J'ai pas de satisfaction. J'ai pas de plaisir. J'ai pas de paix intérieure. Je suis constamment dans le stress, dans l'angoisse ou tout le temps en train de juger ce que je fais, ce que je dis, où j'en suis. Je n'aime pas ça, donc je le rejette. OK ? On ne peut pas construire là-dessus. C'est pas possible. On ne peut pas construire sur quelque chose qu'on rejette. En revanche, on peut s'ouvrir à créer quelque chose de nouveau. Là, effectivement, il y a plus de champs pour construire quelque chose, créer quelque chose de nouveau. Donc il est impératif de se poser la question de savoir pourquoi je veux changer. Est-ce que c'est pour rejeter ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie ou est-ce que c'est pour prendre un virage qui va me porter vers quelque chose de plus ouvert dans lequel je vais pouvoir écrire la vie qui me correspond vraiment. Je vais y mettre les éléments qui sont importants pour moi. À propos d'éléments importants pour moi, il est utile, et c'est la première clé, de me demander qu'est-ce que je veux vraiment. Alors, qu'est-ce que je veux vraiment est une formule qui est vraiment profonde, qui est chargée en énergie. Ce n'est pas qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux vraiment, puisque, on l'a vu X fois, qu'est-ce que je veux va me porter à regarder ce qu'il y a dans ma vie qui me manque, évidemment. Quand on fait un bilan sur sa vie, on ne fait jamais un bilan sur les acquis, sur ce qu'on a et sur ce qui nous amuse tous les jours. Non, on fait toujours un bilan sur ce qu'on n'a pas. Donc là, on va regarder ce qu'on n'a pas et on va aller chercher à l'extérieur tout ce qui pourra combler ce qu'on n'a pas. Ça, c'est qu'est-ce que je veux. Mais qu'est-ce que je veux vraiment me pousse à m'interroger sur à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux vraiment vivre ? Qu'est-ce que je veux vraiment ressentir ? Qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi ? Qu'est-ce qui me plairait par-dessus tout ? C'est marrant quand on interroge les enfants sur les cadeaux. En fait, ils vont jamais chercher un cadeau en fonction de ce qu'ils représentent, mais toujours en fonction de ce qu'ils vont ressentir en le recevant. C'est-à-dire, ils pressentent ce qu'ils vont ressentir en le recevant. C'est pour ça qu'en fait, on offre des cadeaux parfois à des enfants qui les ont réclamés pendant des mois, ils s'amusent 3 jours avec et après, ils n'y touchent plus. Et les parents sont souvent frustrés en disant « Ah merde, il nous a pris la tête avec son karting, sa voiture ou son vélo, et maintenant qu'il a, il ne joue pas avec. » Donc, c'est presque frustrant pour les parents, quoi. Mais pour les enfants, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, ils envisagent l'objet qui va être envoyé par le Père Noël ou offrir à son anniversaire, ils envisagent l'objet comme une émotion qu'ils vont vivre. Et donc, ils veulent ça parce qu'ils savent que ça, quand ça va se matérialiser dans leur vie, ils vont être super heureux. Et donc, ils ne cherchent pas l'objet, ils cherchent à être heureux. Ils cherchent ce qu'ils veulent vraiment et non pas ce qu'ils veulent en fonction de ce qui leur manque. Quand on a 5 ans, 6 ans ou même 10 ans, tout nous manque. Donc forcément, surtout dans une société développée comme la nôtre, tout nous manque. Donc forcément, ce qui est important, c'est pas ce qui me manque comme objet, mais ce que je vais ressentir quand je vais le matérialiser devant moi, quand il va être dans ma vie. Eh bien, c'est la même question que je t'invite à te poser. Qu'est-ce que tu veux vraiment ressentir, vivre profondément à l'intérieur de toi? La clé numéro 2, c'était bien évidemment d'identifier ses besoins. Une fois qu'on est allé chercher cette question-là en énergie, ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément d'y répondre, mais on va chercher en énergie. La réponse qu'on pourrait y donner, c'est une réponse raisonnée qu'on ferait avec notre tête. Là, c'est bien de l'énergie. On a installé cette question, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Tellement fort que parfois, il va se passer des moments dans notre vie où on va dire, ah non, en fait, c'est sûr que je ne veux pas ça. Mais qu'est-ce que je veux d'autre? Qu'est-ce qui m'intéresse d'autre? Et c'est là où on va commencer à construire. Donc, tu n'es pas tenu de répondre à cette question aujourd'hui. Tu as tout ton temps pour y répondre. Tu as les 14 jours du programme, mais tu as aussi toute ta vie, si tu as envie que ce soit une question qui soit là, présente toute ta vie. Honnêtement, je te le conseille, parce que c'est vraiment tout le temps comme une remise à zéro, un reset total des leurres, des mensonges ou du décorum qu'on peut se créer dans sa vie. Quand on se pose la question « qu'est-ce que je veux vraiment ?», on ne pense plus véritablement à la décoration de sa maison. On va penser à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc ça, se poser cette question toute sa vie, c'est un vrai cadeau qu'on se fait. Donc, une fois qu'on a intégré, qu'on a aspiré, qu'on a mangé, qu'on a ingurgité cette question « qu'est-ce que je veux vraiment ?», il est intéressant de se poser la question de mes besoins. J'identifie mes besoins. Mes besoins, c'est quoi? C'est-à-dire que dans ma vie sociale, j'ai besoin de quoi? Dans ma vie professionnelle, j'ai besoin de quoi? Dans ma vie amoureuse, j'ai besoin de quoi? Et qu'on n'aille pas répondre, j'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin de ressentir plus d'amour. J'ai besoin de vivre plus de choses, par exemple émotionnelles ou qui me portent à me dépasser. Peu importe, ça, c'est vraiment chacun son truc. Mais quels sont mes besoins? Identifier mes besoins dans la relation, par exemple, la relation à l'autre, l'autre dans le sens de la relation amicale, sociale. Dans ma relation à l'autre, quels sont mes besoins? Ben, j'ai besoin, par exemple, d'être en confiance. J'ai besoin d'être en harmonie. J'ai besoin d'être dans des échanges ou dans un rapport où il va y avoir le rire, où il va y avoir la paix aussi, où il va y avoir... c'est ça dont j'ai besoin. Donc quand on identifie ses besoins, comme celui-là par exemple, et qu'ensuite on voit arriver des gens qui sont dans la volonté d'avoir du conflit, dans la volonté d'avoir une espèce de gestion émotionnelle de la relation, quand on voit des gens qui sont là et qu'on se dit il y a un truc de la manipulation, il y a un truc de la domination, on est tout de suite capable de vivre en contraste ce que cette personne nous propose et les besoins qu'on a su identifier. Quand on n'a pas su identifier ces besoins, ces personnes, ils sont chez nous comme chez eux. Et une fois qu'ils ont bien dégueulassé le canapé avec leurs chaussures et foutu le bordel à la maison, d'un seul coup, on commence à leur dire « stop, non, tu dégages ». Mais peut-être que c'est mieux d'avoir suffisamment identifié ces besoins pour que ces gens-là ne rentrent pas dans notre vie et n'y fassent pas des dégâts. Mais qu'au contraire, on ouvre la porte à des gens qui correspondent à ces besoins qui sont fondamentaux pour nous parce qu'ils nous appellent, ils nous apportent la paix, ils nous apportent la sérénité, ils nous apportent ce qu'on veut vraiment. Ok ? Donc l'identification des besoins. Une fois qu'on a identifié nos besoins, il est intéressant, mais ça souvent ça se fait de manière extrêmement fluide parce que c'est la nature des choses, c'est le chemin normal de la vie. C'est que quand on a identifié nos besoins, on se rend compte qu'en permanence on est en train de combattre. C'est-à-dire qu'on est constamment en train de dire non. Plutôt que de dire « je crée », on dit « stop, stop ». Alors, on n'avance pas véritablement avec ces « stop ». C'est comme les gens qui disent « j'arrête de fumer ». Alors, « j'arrête de fumer », c'est formidable. Ça, c'est dire « stop » à une situation. Mais si tu arrêtes de fumer, c'est pour commencer quoi? Parce que arrêter de fumer, c'est toujours avoir notre énergie posée sur le fait qu'on fumait. Mais si je démarre une vie en respirant librement, c'est autre chose. Arrêter de fumer, arrêter quelque chose, ok, très bien, une fois que c'est arrêté, il y a quelque chose d'autre qui doit se passer. Eh bien, plutôt que d'arrêter ça, il faut ouvrir à commencer autre chose. Et donc, quand on combat, quand on est dans une volonté de combattre pour faire valoir sa parole, ses idées, son espace, sa liberté, etc., eh bien, on est en train de dire stop, donc on est en train d'arrêter de, mais jamais en train d'ouvrir vers. Il était important que tu prennes conscience du nombre de fois où tu étais dans la lutte, dans le combat, dans la volonté d'avoir raison, ou en tout cas de faire valoir le fait que simplement tu sois là, pour pouvoir affirmer les besoins. Et affirmer les besoins, c'est pas du tout rentrer dans le combat. C'est ouvrir à quelque chose et pas arrêter quelque chose. C'est ouvrir. Je m'ouvre à une vie avec des relations sociales beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus légères, beaucoup plus sympas, beaucoup plus drôles. Je m'ouvre à une vie sentimentale beaucoup plus excitante, beaucoup plus complice, beaucoup plus charnelle, beaucoup plus aimante. Je m'ouvre à une vie professionnelle beaucoup plus épanouissante, avec des apprentissages, avec des nouvelles responsabilités, avec du challenge. Je m'ouvre à une vie financière où je reçois en abondance, ce qui me permettra de payer l'intégralité de mes factures et au-delà, c'est-à-dire de me faire plaisir, d'apprendre, de voyager. Je reçois ça et tout est juste et fluide lorsque je le reçois. Je m'ouvre à ça et j'arrête de me fermer au reste. Okay, donc je cesse le combat et j'affirme mes besoins. La clé numéro 4 que nous avons vue il y a 2 jours, empêcher la transgression de mes besoins par un autre. Il est absolument impossible et c'est terminé, mais terminé. Je n'y reviendrai jamais. C'est comme ça, c'est terminé. Personne ne viendra transgresser mes besoins. Personne. Aujourd'hui, faire ça, ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas être prétentieux. Je rappelle quand même que l'égoïsme, c'est le fait d'imposer à l'autre ce qui nous convient à nous. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un cherche à transgresser mes besoins, en fait, il me demande à moi de répondre à ses besoins à lui. Ça, c'est de l'égoïsme. Moi, je ne lui ai rien demandé. Je ne lui demande rien. Tout est OK. Moi, je ne répondrai pas à ses besoins. Je réponds aux miens. Et lorsqu'il me demande de répondre à ses besoins et que je lui dis non, ce n'est pas égoïste, c'est de l'amour de soi. Je m'aime moi d'abord, d'accord? Et donc parce que je m'aime moi, eh bien, je considère qu'en fait, lui, il va s'occuper de sa part de ses besoins et moi, je vais m'occuper de ma part de mes besoins et c'est OK. Et je ne lui demande pas de se plier à ma part des besoins, ça. Si je fais ça, effectivement, je suis égoïste. Mais moi, je préfère l'amour de soi. Et dans l'amour de soi, on se respecte, on respecte ses propres besoins. Et personne, mais vraiment personne, ne vient plus les transgresser. Et parce que c'est clair pour moi, eh bien il se trouve que personne ne le fait. C'est bizarre, hein. Avant, je l'autorisais, donc les gens le faisaient, j'étais obligé de dire non. Maintenant, c'est tellement intégré en moi que personne ne viendra plus jamais transgresser mes besoins, que du coup, plus personne ne le fait, même pour rire, hein, même pour essayer, parce que je fais autorité. Je ne suis pas autoritaire, hein, je fais autorité du respect de mes propres besoins et de l'amour de soi. Voilà qui représentait la 4e clé radicale pour changer de personnalité. Et maintenant, la 5e, place à la 5e clé. C'est une clé tellement importante, mais tellement importante. C'est une clé tellement importante qu'elle en est rare. Très peu de gens utilisent cette clé-là. Et pourtant, c'est celle qui va changer les choses. Je te disais que tu as passé une charnière et maintenant tu vas construire avec ça. Et cette clé, c'est la cohérence. Rester cohérent. Tu as un discours. Tu as des actions qui vont avec. Tu as un désir, tu as le discours qui va avec et les actions qui vont avec. Tu as un vœu, tu as le discours qui va avec, tu as les actions qui vont avec. Et si ton vœu, c'est le bonheur, par exemple, ou l'harmonie, que dans ton discours, il y a ça puisque tu le dis, j'aimerais tellement être heureux, j'aimerais tellement être heureuse, j'aimerais tellement vivre l'harmonie, j'aimerais tellement vivre la paix, et que dans tes actions, tu t'entoures de gens qui sont tout à fait toxiques, qui ne t'écoutent jamais, qui ne te considèrent pas, qui t'écrasent la gueule à longueur de temps, qui t'empêchent de t'exprimer, qui t'empêchent de vivre ta liberté sous prétexte, qui sont dominants, qui te sécurisent ou peu importe, alors là, il n'y a pas de cohérence. Et on croit. Mais on est persuadé, surtout quand on n'applique pas la cohérence, on est absolument persuadé que c'est tellement difficile d'être cohérent. Et en fait, absolument pas. Mais alors, absolument pas. Et quand on fait l'expérience de la cohérence, c'est-à-dire qu'on est totalement aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a une telle joie à l'intérieur de soi. On est tellement fier de soi, on est tellement heureux d'être cette propre personne que d'un seul coup, on fout de la cohérence partout, 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 partout. Alors le piège de la cohérence, c'est ensuite de vouloir que les autres le soient. Les gens sont libres de ne pas être cohérents. Alors vraiment, autant de fois que toi, tu t'autorises à ne pas l'être non plus. C'est-à-dire que vraiment, quand on est dans la cohérence, on trouve tout tellement génial, on trouve sa vie d'un seul coup tellement forte que on ne supporte presque plus que les gens ne le soient pas. Les gens, ils sont capables de faire des promesses, ils sont capables de dire on sera amis, etc. Et en fait, ils sont capables derrière de faire les pires saloperies. Et ensuite, quand on dit tiens, ça, c'est la pire saloperie que tu m'as fait, ils sont capables en plus de venir s'excuser ou de faire comme si les choses n'avaient jamais existé. C'est totalement incohérent. Totalement incohérent. Donc quand on regarde ça et que nous on applique les règles élémentaires de la cohérence, c'est-à-dire je pense, je dis, je fais, aligné sur le même discours, sur la même politique, eh bien quand on voit ça, on devient fou. Parce qu'effectivement, on se rend compte que le manque de cohérence est partout autour de nous. Mais qui sommes-nous pour juger les gens ? Être cohérent, c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué que c'est pas la peine de demander à tous ceux qui sont autour de nous de l'être. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment trop leur en demander. Donc, les gens deviennent cohérents quand ils voient des gens cohérents. Ils sont cohérents quand ils voient la cohérence et quand ils voient à quel point la cohérence est quelque chose de si énorme, énorme. La cohérence, ça change plein de choses. Ça change la relation aux autres, ça change le charisme, ça change le tout, ça change tout. Ça change, j'ai l'impression que ça change physiquement les gens. Quand les gens sont cohérents, ils ont quelque chose de dense et ce truc dense est extrêmement beau à voir. C'est vraiment génial, vraiment. Donc, je pense que tu l'entends dans mon discours, mais je suis totalement enflammé quand on parle de cohérence parce que je trouve que c'est une des valeurs fondamentales qui n'existe plus ou très très peu dans notre société, mais tous ceux qui l'ont, alors on le voit à des kilomètres, on se dit, alors ceux-là, ils sont géniaux. Ceux-là, ils sont forts, quoi, parce qu'ils sont dans l'authenticité, ils sont exactement qui ils disent qu'ils sont et ils ne se racontent pas des histoires, il n'y a pas de déni, il n'y a pas de mensonge, on sait qu'on peut avoir confiance en eux, on sait que s'ils nous regardent et qu'ils nous sourient, c'est parce qu'ils ont envie de nous voir et de nous sourire, parce qu'ils sont en cohérence avec eux-mêmes, rien n'est faux. Et la cohérence, on la confond souvent avec l'authenticité, parfois aussi avec l'intégrité, mais la cohérence est encore plus forte que ça, parce que c'est l'alignement, la cohérence. Tandis que l'intégrité, on peut être très très intègre à des idées totalement débiles. Mais la cohérence, c'est extrêmement fort. Extrêmement fort. Rester cohérent. Alors comment on fait pour rester cohérent ? Eh bien, maintenant qu'on a identifié nos besoins, maintenant qu'on n'a plus besoin de dire stop, et maintenant qu'on sait que personne ne viendra transgresser notre bulle d'intention simplement parce qu'on fait autorité, eh bien, on s'aligne. C'est-à-dire que on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et ça, c'est un soulagement. Je t'invite vraiment à faire cette expérience extraordinaire, au moins ces deux prochains jours, de la cohérence. C'est-à-dire, quel que soit le métier dans lequel tu t'es lancé, que ce métier te plaise ou que ce métier ne te plaise pas, regarde ta cohérence au milieu de tout ça. C'est que c'est toi qui y est allé, d'accord, pour des raisons qui sont des bonnes raisons ou des mauvaises raisons, peu importe, mais tu y es, d'accord. Quelle idée de se plaindre du travail qu'on fait. Si ça ne te plaît pas, sois cohérent, sois cohérente et change de métier. Alors on peut dire, oui, mais c'est compliqué parce que nana, les enfants, et puis il faut à manger, donc il faut des sous. Ce métier est un métier, d'accord ? Tu as trouvé un métier qui ne te plaît pas, et avec ce métier qui ne te plaît pas, tu as un salaire. Donc, ne te prends pas la tête de te demander comment ça va faire. Ça va faire exactement la même chose. Tu vas aller trouver un autre métier qui va te donner un autre salaire. Ce n'est pas, on ne fait pas des métiers qui nous donnent des salaires que lorsque ces métiers ne nous plaisent pas. Il n'y a pas un choix de métier qui correspond à tous les métiers qui ne nous plaisent pas, mais qui nous donnent un salaire. Tu peux aussi faire un métier alimentaire qui te plaît. Et ça peut être un métier alimentaire, mais celui-là te plaît, dans un environnement qui te plaît, avec des gens qui te plaisent, avec des responsabilités qui te conviennent. Si tu n'as pas de job, ou si tu n'arrives pas à créer ton job, regarde au fond de toi comme ça bouillonne de partager des choses, de faire, de produire, de contribuer au monde. Ok? Regarde ça. Eh bien, sois cohérent avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, avec ce que tu veux vraiment. Et pose toutes les actions, 10 heures par jour s'il le faut, pour trouver ce putain de job, parce que tu as quelque chose à donner au monde. Et le coup de dire « oui, mais c'est compliqué, c'est machin », non, c'est pas vrai. Tout ça est dans ta tête. Le chômage, c'est pour les gens qui trouvent ça compliqué. Mais si tu mets de la légèreté, et si tu mets de l'assurance à penser que tu vas contribuer au monde d'une façon merveilleuse, eh bien, lève-toi et va chercher ce job, ou crée-le. Crée-le. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est simple, que demain, tu auras ta première source de revenus sous 48 heures. Non, ce n'est pas ça que je te dis. Je suis en train de te dire qu'il faut être cohérent cohérente dans tes actions, dans ton discours et dans tes paroles. C'est tout. Quand tu dis que tu aimes ton prochain, aime-le. Quand tu dis que tu aimes ton conjoint ou ta conjointe, aime-la. Aime-la vraiment. Il y a des tas de gens qui disent « oui, mon mari il m'aime, mais voilà, il est un peu brutal, parfois il me secoue, j'ai reçu déjà 2-3 baffes, et puis il est pas très gentil, mais je sais qu'il m'aime. » Non, il ne t'aime pas, il te fout des baffes. Quand on fout des baffes aux gens, on ne les aime pas. Et si tu fais partie de ces gens qui disent « oui, moi, ma femme ou mon mari, je l'aime », et que dans ton quotidien, tu ne marques pas des gestes d'attention, si des gens qui disent « nous, on s'aime, mais ils n'ont pas fait l'amour depuis 2 ans », ils ne s'aiment pas, ce sont des amis, ils s'aiment comme des amis, mais ils ne s'aiment pas comme un couple. Être cohérent, c'est être en face de la réalité qu'on a décidée, qu'on a choisie, même si c'est pour des mauvaises raison. Soyons cohérents. On ne peut pas faire de plus beaux cadeaux à ceux qui nous entourent, à nos enfants, à nos conjoints, à nos amis, qu'en étant cohérents. Parce que quand on dit « je t'aime », eh bien on aime vraiment. Quand on a un geste d'affection ou d'attention, il est cohérent avec le discours et il est cohérent avec la pensée. Il y a des tas de mecs ou des tas de nanas hein, qui disent « je t'aime » à leur conjoint ou à leur conjointe et qui ont des maîtresses depuis plusieurs années. Alors, effectivement, on peut aimer 2 personnes. Moi, j'y crois qu'on puisse aimer 2 personnes. Mais il y a un moment où le mensonge s'installe. Et quand le mensonge s'installe, il n'y a plus de cohérence. Il y a des tas de gens qui parlent d'intégrité, mais qui n'ont aucune intégrité simplement parce que ils sont dans le mensonge, ils sont dans le déni. Soyons cohérents. Alors je sais que je suis en train de parler de quelque chose qui n'est pas simple à entendre et peut-être dans ta tête pas simple à appliquer, mais ça se fait pas d'un seul coup. Je ne vais pas te dire quand tu auras raccroché avec cette audio-là, tu vas te mettre à être extrêmement cohérent dans ta vie parce que tu vas devenir un petit dictateur pour toi-même. Mais ce que tu peux faire, c'est au moins regarder à quel point parfois ton discours est loin de tes pensées ou de tes actions. À quel point tes pensées peuvent être loin de tes actions ou tes actions loin de tes pensées. Il y a plein de gens qui s'aiment, par exemple, qui ne se prennent jamais dans les bras parce que on n'a pas appris l'éducation, le machin, les trucs. Par contre, ils en crèvent d'envie. Ils adoreraient ça, mais ils savent pas comment faire. Eh bien, si tu fais partie de ces gens-là, eh bien, c'est pas grave. Tu te rapproches de ton conjoint et de ta conjointe et maladroitement, tu le prends dans tes bras ou tu la prends dans tes bras en disant « je sais que c'est maladroit, je sais que je suis pas encore très à l'aise, mais c'est ça que j'ai envie. J'ai envie de te prendre dans mes bras, j'ai envie de te prendre la main, j'ai envie de marcher avec toi, j'ai envie qu'on aille se balader, j'ai envie qu'on parte en vacances, j'ai envie de me réveiller le matin et de t'avoir à côté de moi. Je sais pas le dire, je suis maladroit, je suis désolé. C'est nul, je sais pas comment on fait pour être romantique et tout, mais qu'est-ce que j'aime quand t'es là, quoi. Qu'est-ce que j'aime quand t'es là. Là, la pensée d'amour est cohérente avec le discours d'amour et ensuite on va caler les actions d'amour. C'est-à-dire que si on dit à quelqu'un « qu'est-ce que j'aime quand t'es là ?», eh bien on lui reproche pas d'être là, on lui reproche pas ce qu'elle fait, la façon dont elle pense, la façon dont elle réagit. Dernièrement, je déjeunais avec un couple, ils s'aiment, ça se voit, ils sont sauf qu'ils ont énormément de maladresse. Ce sont 2 personnes qui ont jamais véritablement appris à avoir de l'attention les uns pour les autres. Alors, mais par contre, l'amour est là, ça se voit, ça irradie de partout. Et donc, elle parlait de son expérience professionnelle en disant « et il s'est passé ça et j'ai eu du mal à faire ça ». Et lui, il dit « bah oui, mais évidemment, parfois, c'est fou, tu sais pas dire non ». Et je me suis dit, mais pourquoi? En fait, il est en train de lui dire je t'aime et je souffre pour toi en disant un tas de conneries qui sont des reproches sur ce qu'elle est ou sur ce qu'elle n'est pas. Mais quand on aime, on ne dit pas ça. Quand on aime, on s'accorde dans l'action et le discours à dire c'est sûr, ok, aujourd'hui tu n'y arrives pas, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Parce que tous les jours tu te lèves pour ça, parce que tu y réfléchis, parce que ton discours est un discours qui parle d'arriver à faire ça. Donc forcément, il y a un moment où tu vas y arriver. Arrête de t'inquiéter, ma chérie. Arrête de t'inquiéter, t'inquiète pas. Aie confiance, tu vas voir, il y a un moment où tu vas trouver l'angle et hop, tu vas y aller, quoi. Plutôt que de dire, ah, évidemment, c'est sûr que, mais en même temps, quand t'es en phase 2, tu fermes ta gueule. Alors évidemment, si tu dis rien, il peut rien se passer. Waouh, 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 stop, 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 stop. C'est que tu es en train de lui dire quoi? T'es en train de lui parler d'amour? T'es en train de lui d'espérer pour cette personne qu'elle soit plus heureuse? Alors change ton action d'amour au moment où c'est pas un discours d'amour, pour le coup, c'est une action, puisque c'est le fait d'être dans l'amour avec cette personne-là, et bien c'est pas comme ça. C'est en encourageant et c'est pas en reprochant. C'est en accompagnant et c'est pas en poussant. C'est en acceptant et pas en manipulant. Et la cohérence, c'est tellement puissant. Et une fois qu'on a commencé à poser des actions de cohérence, je te le disais tout à l'heure, quand on a commencé à poser des actions de cohérence et qu'on se sent totalement aligné, alors moi, les premières actions de cohérence que j'ai posées dans ma vie, elles sont dures, elles sont un peu violentes. Je me souviens un jour, j'étais avec ma bande de potes, on était toujours une quinzaine, et on décide de se faire un resto. Donc on arrive dans un resto, on avait réservé, ils nous avaient mis une grande table à l'extérieur du resto, et donc on s'est tous installés là. Et en fait, c'était un moment où il y avait des élections, et j'en vois deux qui ont toujours un petit peu, c'est un peu les grandes gueules du groupe, qui commencent à dire « ouais, les élections, les machins, les trucs ». Sauf que ce sont aussi deux grands provocateurs. Et j'en vois un troisième qui commence à se faire attraper par le piège de oui, mais machin, truc, ouais, mais les infos, mais on nous raconte que ça, mais cette personne. Et bon, ça commence à parler. Et je me suis demandé si c'était important pour moi d'être dans ce combat de coq du dernier qui a parlé, qui a raison. Et je me suis dit, je les connais, ça va être ça pendant tout le repas. Et donc, je me suis levé, je leur ai dit, excusez-moi. Moi, je suis venu pour échanger avec vous, alors, mais sûrement pas pour voir ce spectacle-là. Mais allez-y, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une super bonne soirée et ciao. Et je vais faire autre chose. Et donc, je suis parti. Et donc, j'ai une copine qui se lève, qui court dans la rue et qui me rattrape en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'en vas comme ça ?» Et je dis « En fait, moi, je suis venu avec des amis. Et pour moi, des amis, ce sont des gens qui se parlent correctement. Ce sont des gens qui s'intéressent les uns aux autres. Et c'est sûrement pas ça. » Mais moi, j'ai rien contre le fait que ce soit ça. Je dis que si c'est ça, alors moi je m'en vais faire autre chose. Et j'ai plein de trucs à faire. Tu vois, je peux aller au théâtre, je peux aller me balader, je peux appeler des copains, des copines. Je m'en fous, je peux me balader dans la ville. Je peux faire plein de trucs qui vont être en cohérence avec ce que j'ai envie, quoi, ce qui est intéressant pour moi. Mais là, vraiment, c'est pas du tout intéressant pour moi. Et elle me dit, ok, d'accord, je comprends. Je dis, je te remercie, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai embrassée et je suis parti. Et donc, elle est retournée à table et moi, je suis parti, quoi. Et en fait, j'ai rien fait de spécial. Je suis rentré chez moi, mais je suis rentré totalement envahi du plaisir d'être de la cohérence. De me dire, en fait, finalement, je sais ce que je veux dans ma vie et c'est par des gestes comme ça que je vais réussir à me l'accorder. Alors, ils ont compris que j'étais pas du tout fâché contre eux. Ils ont compris que j'avais envie d'autre chose que ça. Et libre à eux de continuer. C'est à moi, parce que ça me convient pas, d'être cohérent avec ce que j'ai envie et d'aller chercher quelque chose d'autre ailleurs. Et j'ai passé une super soirée. Et dans cette soirée, la cerise sur le gâteau, c'était que j'avais réussi à faire ça. Et donc après, j'ai été un peu identifié comme celui qui, quand il s'emmerde, s'en va. Et donc, il y avait toujours des fêtes, il y avait des soirées, etc. Et je m'amusais, ou parfois, j'arrivais à la soirée, je discutais avec trois personnes, et puis je me disais, bon, je m'emmerde un peu. Donc, je restais toujours un petit peu pour voir comment ça allait dérouler. Et puis, comme ça déroulait pas, donc du coup, je prenais mes affaires, je me cassais. Mais sans faire un esclandre, sans rien. Enfin, l'idée, c'est pas de faire du spectacle. L'idée, c'est d'aller là où on est bien. Et donc, je partais en catimini, je faisais des bisous aux gens qui m'avaient invité, en disant je te remercie et tout, non, je file et tout, mais je te souhaite une super bonne soirée. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, la cohérence, c'est vraiment j'ai un discours d'aller chercher ça dans ma vie. J'ai des pensées qui sont profondément inscrites dans ce discours-là, et j'ai des actions qui vont m'y porter aussi. Et pour que j'y arrive à un moment donné, il y a des actions que je ne dois plus faire. Si je veux être en cohérence, par exemple, il y a des tas de gens qui se plaignent de ne pas être suffisamment en santé, mais ils ont 10 kilos de trop. Il y a un moment où la cohérence veut que tu fasses tout pour les perdre. Ça veut dire qu'il y a un moment où tout va être au service de ta santé et non pas de ton régime alimentaire. L'idée, c'est pas de perdre du poids, c'est-à-dire d'arrêter d'être gros comme arrêter de fumer. L'idée, c'est de commencer une vie dans laquelle tu es en pleine santé. Et la vie dans laquelle tu es en pleine santé, c'est peut-être pas celle que tu vis tous les jours qui fait que tu as 10 kilos de trop. Donc, l'idée, c'est de vraiment être en cohérence avec sa santé, être en cohérence avec l'éducation qu'on donne à nos enfants. Moi, je me suis rendu compte, le nombre de choses que je transmettais bêtement parce que je les avais apprises, ces expressions de « oui, tu verras plus tard, tu comprendras quand tu auras des enfants », je me suis dit « mais je ne veux pas avoir à dire ça à mes enfants ». C'est hallucinant de dire des conneries pareilles. Tu comprendras quand tu auras des enfants. La question, elle se pose maintenant. Pourquoi on n'est pas capable de répondre à nos enfants maintenant? On peut leur expliquer, tu sais, quand on a des enfants, eh ben, on a des notions de responsabilité qui sont différentes, etc. Et moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est pas débile de parler à ces enfants comme s'ils étaient en capacité de comprendre. Donc l'éducation qu'on va donner à nos enfants va changer, la relation qu'on va avoir à notre conjoint va changer, la relation qu'on va avoir avec nous-mêmes, elle va changer. C'est-à-dire, j'ai envie aussi d'avoir du plaisir dans ma vie. Est-ce que de temps en temps, je m'arrête pour aller boire un coup sur une terrasse, au soleil, lire un bon livre? Est-ce que de temps en temps, je m'arrête pour aller me faire masser? Est-ce que de temps en temps, je m'arrête pour juste aller boire un coup avec un copain, me faire un cinéma tout seul, ou juste sortir, me balader, aller dans un parc, faire du jogging? Si je veux avoir une vie qui me correspond parce que j'y trouve des éléments épanouissants, est-ce que dans mes actions, je pose ces éléments-là? Alors, je ne suis pas en train de faire une espèce de grande rhétorique sur « prends-toi en main », etc. C'est pas ça. Je parle d'amour de soi. Je parle de cohérence avec le discours d'amour de soi. C'est tout. Ok? Eh bien, pendant 2 jours, il va bien falloir l'arrêter cet audio. Tu sais, t'as bien compris que sur la cohérence, je peux parler pendant 3 heures. Donc, pendant 2 jours, tu vas essayer, je t'invite en tout cas à le tenter, de poser des actions de cohérence, ok? Et moi, je reviens dans 2 jours avec un nouvel audio sur la 6e clé, évidemment. Et d'ici là, je te souhaite une super journée, 2 super journées, et je te retrouve dans 2 jours. Ciao !